Ben oui, pour parler du roman, mais alors il y a la rencontre avec les lecteurs et lectrices qui ne s'est pas faite sur le précédent non plus, en librairie, dans des salons du livre, pour des dédicaces. Qu'est-ce que ça change, ça aussi? Est-ce que c'était étrange? J'imagine que des contacts avec les lecteurs, vous les avez aussi via les réseaux sociaux. Ils doivent vous écrire, mais malgré tout, il y a quelque chose de différent.
C'est très étrange, parce que pour moi, le livre, il a une vraie vie. Il a une première vie, qui est la vie que je lui donne quand j'écris dans mon bureau chez moi à Genève en Suisse, et qui est un moment très intime que je partage avec personne, et qui est la première existence du livre et que je vis à la fois comme auteur et à la fois comme lecteur de mon propre texte. Et puis une fois que cette période-là est terminée, il a une deuxième vie dans laquelle je suis moins impliqué directement, mais je le suis quand même évidemment, puisque le livre n'est plus lu par moi, mais il est lu par d'autres lecteurs, d'autres gens. Que je vais ensuite retrouver et que je vais avoir le plaisir de retrouver maintenant depuis quelques années, qui ont lu d'autres de mes livres, qui vont le mettre, me parler de mon livre, le comparer aux autres, me dire ce qu'ils ont aimé, me dire ce qu'ils ont moins aimé, m'expliquer ce qu'eux ont vu ou perçu. Et là, je me rends compte à quel point chaque lecture est unique et chacun s'est approprié ce livre. Et c'est important parce que je me rends compte que ce livre-là, il n'est donc plus vraiment à moi, qu'il est parti entre les mains de ceux qui veulent bien le lire, et qu'il est dans une autre étape de sa vie, et que je peux plus rien faire pour lui, mais c'est-à-dire, ça me permet de sortir de l'étape un peu postpartum de l'accouchement du livre, où on a un moment un peu vide, hein, parce que tout d'un coup, nos journées qui étaient occupées 24 heures sur 24 presque, dans le sens où un livre, même quand vous n'êtes pas en train d'écrire votre texte, vous êtes dans le livre parce que vous y pensez, vous avez laissé votre texte parce que vous deviez partir dans une piste qui n'est pas claire, dans un moment qui n'est pas clair. Et donc, peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais là, je dois réfléchir, comment je le fais, comment je vais réussir, est-ce que ce personnage-là, il est bien? Donc, vous êtes constamment dans votre livre. Et du coup, quand le livre est terminé, il y a un assèchement soudain, quelque chose s'arrête dans votre esprit, dans votre tête, et ce n'est pas toujours simple. Et cette passation de pouvoir au lecteur, où c'est lui qui reprend le flambeau et qui s'occupe du livre, moi, elle me fait beaucoup de bien.
Il y a une curiosité aussi en tant qu'auteur, justement, à aller entendre ce que les gens auront compris ou ce que chacun aura compris. Comme vous dites, il y a autant de lectures possibles que de lecteurs.
Il y a une vraie curiosité qui n'est pas du tout dans la comparaison ou dans le jugement. C'est-à-dire que quand j'ai des lecteurs, et c'est souvent le cas qui va me dire, mais alors moi, j'ai vu tel personnage, je l'ai imaginé comme ci ou je l'ai imaginé comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Et je leur dis toujours, mais si vous avez imaginé ce personnage comme ça, c'est qu'il est comme ça, parce que c'est votre lecture. Et je pense que l'auteur n'a jamais à s'immiscer dans le sentiment de lecture, dans l'imaginaire que les lecteurs ont, et l'auteur n'a jamais à valider ou à invalider un sentiment. Et je pense que l'auteur ne doit jamais non plus être en train de défendre ou d'expliquer ce qu'il a voulu faire. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il a raté quelque chose. Ce qui n'est pas très grave, hein, mais ça veut dire que si vous devez, après coup,
justifier
ce que vous avez voulu écrire, alors vous avez passé 2 ou 3 ans à écrire votre texte, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait juste.
Oui. On vous, des petits papiers, ils sont pliés. Vous pouvez en piocher un. Dessus, il y a un mot. Et on va voir ce que ça peut raconter.
Alors, j'ouvre le premier papier. Fidélité. Fidélité, c'est important pour moi, la fidélité, ça raconte plein de choses. Je trouve que la fidélité, c'est un peu une des valeurs phares de qui vous êtes, qui va au-delà de tout ce qu'on peut avoir dans ce monde de succès, ou d'argent, ou de gloire, ou de poudre aux yeux, ou des apparences. Et quand vous enlevez tout ça, la fidélité, c'est pour moi la valeur la plus importante, parce que c'est ce qu'elle raconte de vous. Pourquoi ? Parce que la fidélité, elle est quelque chose qui, en général, quand elle a lieu, elle ne s'exprime pas. Elle est, quand vous êtes fidèle, quand vous faites un acte d'être fidèle, fidèle à un ami, fidèle à une cause, fidèle à votre mari ou à votre femme, ou à votre copine, peu importe, vous n'êtes pas dans une action concrète aux yeux de l'autre, vous êtes dans quelque chose que vous faites en général anonymement, silencieusement, par derrière. Et c'est en ça que c'est une valeur énorme pour moi, parce que ça dit vraiment quelque chose de vous. Et les gens très fidèles sont pour moi des gens que j'apprécie particulièrement pour ce que ça dit d'eux. Et puis je ne peux pas non plus lire ce petit papier de fidélité sans que ça fasse écho en moi à un homme qui était très important, mon éditeur Bernard de Fallois, qui a été un homme qui m'a tout donné. Bernard de Fallois, ça a été mon éditeur. Il a édité La vérité sur l'affaire Harry Campbell. Il a été l'artisan du succès de ce livre, des livres qui ont suivi. Je l'ai rencontré en 2011. Il avait à ce moment-là 86 ans et moi 26 ans. Donc on avait 60 ans de différence. C'était un homme qui avait déjà fini sa carrière dans le sens où il avait monté sa maison d'édition après avoir été mis à la retraite d'une carrière dans des grands groupes d'édition en France. Et donc il n'avait plus vraiment des enjeux de carrière. Il faisait vraiment tout ça pour le plaisir. Et j'ai eu avec lui des années de bonheur, une amitié incroyable. On a eu beaucoup de bonheur. Il m'a beaucoup appris. Il était très curieux. Il aimait apprendre. Il aimait enseigner. D'ailleurs, il avait été enseignant dans la première partie de sa vie. Et quand il est décédé en 2018, à l'âge de 92 ans, je me suis dit que par fidélité pour lui, je n'irais pas ailleurs. Je voulais pas le trahir. Et je dis ça parce que quand il est décédé, un de ses vœux, c'était que sa maison d'édition ferme. Il voulait pas que sa maison lui survive. Et donc, sa maison allait fermer, je le savais, dans un horizon de temps de 2 ans. Donc, je savais que d'ici 2020, à peu près, ça serait fini. Et donc, il fallait que je trouve
Une
solution pour mes livres.
Ouais.
Et je me suis dit, je peux pas aller ailleurs. Ce serait une trahison. Et je me suis dit que ce que je pourrais faire pour lui montrer ma fidélité, même s'il était plus là, c'était de monter une maison d'édition un peu comme lui avait monté la sienne, c'est-à-dire quelque chose de à petite taille, à dimension humaine, et qui soit aussi un peu dans la continuité de son projet. Donc quelque chose de très artisanal, avec beaucoup de plaisir, c'était important. Attendre, c'est pas mon fort. Je suis quelqu'un de très impatient. Je suis quelqu'un de très impatient parce que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'envie. Et que je trouve que la vie est courte en plus, et que j'aimerais pouvoir tout faire. Et je commence seulement maintenant, péniblement, à 36 ans, à me rendre compte que je ne pourrais pas tout faire, que la vie ne le permet pas, et que l'attente, parfois, permet justement de faire des choix, et que ces choix permettent de mieux vivre, parce qu'une fois que vous avez fait des choix, alors vous avez moins de précipitations, vous avez moins de regrets, vous avez moins de frustrations. Et l'attente, elle est, je la vois, en tout cas, voilà, dans la vie, un peu comme le phénomène de décanter quelque chose, où en vous arrêtant un petit moment, vous laissez la matière tomber et vous pouvez avoir une analyse beaucoup plus claire de la situation. Et c'est pas toujours simple pour moi de le faire, mais je me rends compte peu à peu. L'attente aussi, c'est un élément important, je trouve, dans la création, notamment quand on écrit.
Oui, parce que
c'est le recul.
Entre le moment où on écrit et le moment où c'est lu, il y a évidemment un assez long temps d'attente aussi.
Oui, ce qui offre une difficulté supplémentaire, parce qu'en général, entre le temps où on a écrit, le temps où le livre est imprimé, il est distribué, il paraît enfin, et puis vous allez ensuite en librairie et rencontrer des lecteurs, vous êtes dans un autre projet. Mm-hmm. Parce que le temps a passé et que vous êtes vraiment ailleurs. Et du coup, c'est parfois difficile même de se remettre dans le livre qu'on a quasiment oublié, on est vraiment ailleurs, et les lecteurs viennent et vous disent « Ah, mais là, pourquoi vous avez voulu faire ça ?» ou les journalistes aussi, et il faut revenir. Mais je dis « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» C'est vrai, c'est une bonne question. Et c'est toujours des moments plaisants, hein, parce que ça nous replonge dans les raisons, essayer de défendre pourquoi ou expliquer pourquoi on a fait des choix. Et c'est parfois difficile en termes de création de justifier ce qu'on fait.
Puisque vous parlez de choix, vous disiez il y a quelques instants, à 36 ans, je commence à me dire que je ne vais pas pouvoir tout faire. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, vous aviez envie de tout faire? Est-ce que c'est envie de laisser une trace? Est-ce que c'est envie de dire, tiens, il faut que j'arrive à faire ça, 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 ça? Comme s'il y avait quelque chose à accomplir?
Non, c'est plutôt de la curiosité.
Oui.
J'ai toujours aimé, j'ai aimé le dessin, j'ai aimé la musique, j'ai aimé écrire. Mais aimer le dessin, ça veut dire par exemple juste ça, hein. J'aurais aimé faire de la BD, j'aurais aimé être peintre, j'aurais aimé faire de l'architecture, et puis écrire quoi, des livres ou des scénarios, et de la musique, j'ai toujours aimé faire de la musique, je voulais en faire comme métier, et puis je me serais vu aussi avocat, j'ai fait des études de droit, j'ai fait...
Vous avez fait le cours Florent aussi,
j'ai fait le cours Florent, je voulais être acteur peut-être, je me serais vu flic peut-être, ou pompier aussi. Et tout ça, donc c'est une envie de dire, mais qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que je fais? dans toutes ces possibilités, toute cette curiosité. Et vous savez, d'être curieux et d'avoir envie de faire beaucoup de choses, à la fois c'est une chance parce qu'on se dit, ben voilà, c'est chouette, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, qu'est-ce que je veux faire? En même temps, c'est une difficulté parce que vous devez faire un choix à un moment donné. Et c'est difficile de faire un choix en définissant ce qu'on veut. En général, on fait son choix en se rendant compte de ce qu'on ne veut pas faire. Mmh. Et donc, j'ai fait le cours Florence, qui m'a permis de faire d'être un acteur pendant quelques mois, un an presque, qui m'a fait me dire, bah, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça que je veux faire. J'ai fait des études de droit qui m'ont rendu heureux parce que j'ai appris quelque chose et j'ai eu un diplôme universitaire, c'était important pour moi. Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, ces étapes qui nous valident ou invalide un choix, au fond, en invalidant un choix, il valide une direction. C'était une direction importante pour moi. Et je crois qu'il faut, dans ce genre de cas, se rappeler qu'on a chacun un outil extraordinaire en nous, mais qu'on l'utilise au fond assez peu, c'est l'instinct. On a tous un instinct qui, en général, est à son maximum quand on naît. On voit des petits enfants, des bébés, qui sont loin d'être des êtres fragiles, incapables de se faire comprendre, de ramper. Ils ont cet instinct complètement fou, les animaux aussi. Expliquez-moi comment des tortues d'eau, des tortues de mer sortent d'un œuf sur une plage, passent 20 ans dans la mer et puis reviennent à l'endroit exact où elles sont nées. Pareil pour les saumons. Enfin, il y a des capacités complètement incroyables qu'on a, nous, êtres humains, mais qu'on abîme. Parce qu'ensuite, quand on grandit, on est enfant, on est bébé, on devient enfant, on va à l'école, on a des professeurs, on a des parents, des gens qui disent, mais non, fais pas ça, non, c'est pas bien, non, attention. Notre instinct, après, on commence à le mélanger avec le sentiment de peur, qui est un sentiment qui n'est pas du tout le même, mais la fréquence peut paraître un peu similaire.
Notre invité aujourd'hui dans les petits papiers.
Évidence.
On parlait d'instinct juste avant. Il y a des choses qui, grâce à l'instinct, deviennent des évidences.
C'est absolument ça. Où il y a des évidences qui se confirment grâce à l'instinct. Difficile, ce sont des postulats compliqués, les évidences, parce qu'on est évidemment toujours plus intelligent après. Et donc, quand il y a quelque chose qui, pour vous, si on revient à l'instinct, tient de l'instinct et que vous vous embarquez dans une brèche ou dans une voie parce que c'est évident pour vous, elle ne se révélera évidente aux autres qu'après. Pour ne parler que de moi, excusez-moi.
C'est pour ça que vous êtes venu, donc allez-y, faites-vous plaisir.
J'ai évidemment vécu ça quand je parlais de mon envie de devenir écrivain, qui est une envie qui m'a habité depuis très longtemps. Et surtout vers l'âge de 16, 17, 18 ans, quand je m'en ouvrais à des gens, on me disait, mais c'est pas un métier. On me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? J'aimerais être écrivain, c'est mon rêve. Je disais, c'est pas un métier, c'est un hobby. Et là, la vocation, en principe, à éveiller quelque chose, sans marteler, éveiller quelque chose chez le lecteur, qui à la fin de ce livre n'aura pas été lobotomisé par un écrivain qui aura essayé de lui dire, pense ça, tu dois penser ça, ça c'est la bonne pensée. Il aura mis devant le lecteur, il aura ouvert des portes, et ce sera au lecteur ensuite de prendre son destin en main et d'avoir cet éveil et de se poser des questions. C'est souvent des questions qui n'ont pas de réponse directe, mais dont la réponse est entre les mains du lecteur. Discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. J'y crois beaucoup. Et je suis, en tout cas moi, je suis très attaché à avoir un pan de ma vie qui est complètement pas caché et pas secret, parce qu'il est ni secret ni caché, mais dont la porte est fermée. Et on sait que ça existe, mais j'ai pas envie d'en parler, pour beaucoup de raisons.